8h. Le journal nous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. Une poignée de main franche et sincère entre Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Voilà qui donne le ton entre les deux dirigeants. Échanges cordiaux, tournés vers l'avenir. C'est en tout cas ce qui ressort des discours d'hier. Aujourd'hui, deuxième jour de visite pour Emmanuel Macron. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Algérie, envoyé spécial d'Europe 1 pour suivre ce déplacement d'Emmanuel Macron. Quel est le programme pour aujourd'hui, Jacques ?
Eh bien, le président français va se rendre tout à l'heure au cimetière Saint-Eugène d'Alger. Il va rendre hommage aux morts français de la Première et de la Seconde Guerre mondiale en compagnie de l'archevêque d'Alger. Le grand rabbin de France n'est finalement pas présent. Il annonçait hier être positif au Covid. Un peu plus tard dans la matinée, Emmanuel Macron échangera avec deux jeunes entrepreneurs. Vous savez que l'Élysée veut axer ce déplacement sur la jeunesse et l'avenir entre les deux pays. Mais le locataire de l'Élysée a de nouveau rendez-vous avec le président algérien. Ils déjeuneront ensemble ainsi qu'avec les membres de leur gouvernement et les chefs d'État major des deux pays. Au menu des discussions, le Sahel, la Libye. Surtout, Paris aimerait convaincre Alger de se détourner de son attrait pour la Russie afin de développer un nouveau partenariat militaire entre nos deux pays.
Alors on l'entend Jacques, hein, l'avenir est pavé de bonnes intentions, comme on dit, entre la France et l'Algérie. Mais la première journée de visite officielle d'Emmanuel Macron hier n'a pas été franchement fructueuse en dehors d'une annonce mémorielle. Hein.
Oui, il n'y a pas à ce stade d'avancée concrète sur la question centrale des visas et des laissez-passer consulaires. Le locataire de l'Élysée renvoyant ce sujet à la suite de la visite.
Plusieurs éléments seront au cœur de nos travaux. D'abord, donc, clarifier, simplifier notre cadre de mobilité l'un et l'autre. Et je crois que nous avons dessiné des lignes claires.
Seule annonce notable, la création d'une commission mixte composée d'historiens français et algériens pour regarder l'ensemble de la période allant du début de la colonisation à la fin de la guerre d'Algérie, comme l'a expliqué Emmanuel Macron.
Nous avons un passé commun. Il est complexe, douloureux. Il a pu parfois comme empêcher de regarder l'avenir. Nous vivons, je le crois, un moment unique qui, je l'espère, doit nous permettre de regarder en face ce passé avec beaucoup d'humilité, sans tabou, avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives, de part et d'autre, et une volonté ensuite de mener cette œuvre de reconnaissance.
L'entourage du président espère que cette fois ce sera la bonne, alors que la dernière tentative de travail commun sur le passé n'avait finalement pas abouti.
Jacques Serret en direct d'Alger, envoyé spécial d'Europe 1 pour suivre Emmanuel Macron.
Alors le chef de l'État est plein d'ambition pour ce voyage. Il veut notamment envoyer un message fort à la jeunesse et on l'a entendu tourner les relations franco-algériennes vers l'avenir.
Oui, mais alors comment la population sur place perçoit-elle cette visite ? Emmanuel Macron sera-t-il, comme il l'espère, le président de la réconciliation? Le reportage du correspondant d'Europe 1, Nour Chahin, dans les rues d'Alger.
Sous un soleil de plomb, Samar la vingtaine attend un taxi qui tarde à se manifester. Alger est embouteillé car l'avion du président français vient d'atterrir. Une visite purement intéressée, selon l'étudiante.
Macron, il est là, il n'est pas là pour les beaux yeux de l'Algérie, il est là pour le gaz, pour ses intérêts, pour les intérêts de l'Europe surtout.
La question des visas demeure une préoccupation pour Farid. Il a déjà essuyé deux refus, lui qui voulait retrouver ses cousins en France.
J'ai des copains en France, j'ai de la famille en France. J'espère vraiment que les procédures de visa vont s'alléger en quelque sorte parce que c'est vraiment difficile pour nous d'obtenir un visa pour la France. Pour nous les Algériens, c'est un peu la galère.
Il ne faut pas s'attendre à des miracles, nous dit Hamid, la cinquantaine. La politique continuera de peser de tout son poids sur les relations algéro-françaises.
Comme tous les anciens présidents français, il y a quand même des lobbies ou bien des cercles un peu qui fassent que Macron aussi il est obligé de faire avec. On l'a vu lors des élections, comment Macron a quand même tourné kazakh. Après avoir traité la colonisation de crime d'humanité, il a complètement basculé en niant l'existence même de la nation algérienne.
Très peu d'attentes, mais de l'espoir côté algérien de voir les relations avec la France s'apaiser, histoire de passer rapidement à une étape constructive.
Nour Chahin, correspondant d'Europe 1 en Algérie.
Et puis avant de partir en Algérie, Emmanuel Macron s'est adressé au recteur d'académie hier matin, un discours de rentrée qui dresse, on va dire, un portrait plutôt sombre de l'école française.
Oui, élèves malheureux, parents anxieux, professeurs désabusés. Le chef de l'État s'est voulu lucide avant de dérouler sa feuille de route pour l'enseignement et il a fait plusieurs annonces, Arthur Delaborde.
Oui, le président s'est en quelque sorte transformé en super ministre de l'Éducation nationale avec des annonces à la clé comme l'extension du passe culture au collège dès la classe de 6e. Il a aussi confirmé des promesses. Aucun professeur embauché sous les 2000 euros nets par mois. Mais face à une école qu'il a décrite comme plus à la hauteur avec des élèves d'élèves malheureux, des professeurs désabusés et des parents inquiets. C'est surtout une révolution culturelle qu'Emmanuel Macron a appelée de ses voeux. Plus d'autonomie pour les établissements, pour que chaque école bâtisse son projet. Intervention très nourrie donc devant les pontes de l'éducation nationale qu'il écoutait religieusement. C'est d'ailleurs la première fois qu'un président de la République se livrait à cet exercice traditionnellement réservé aux ministres.
Emmanuel Macron qui marche donc sur les plates-bandes de son ministre de l'éducation nationale. Forcément, on se pose la question, Arthur, Pape Ndiaye a-t-il réellement la main sur sa politique éducative ?
Effectivement, certains syndicats y ont vu la démonstration de la volonté d'Emmanuel Macron de reprendre la main sur le sujet de la rentrée et de tutorer son ministre. Pape Ndiaye, qui peine à s'affirmer depuis qu'il est installé rue de Grenelle. En mai dernier, cet intellectuel novice en politique était arrivé avec la double étiquette d'anti-blanquer et d'homme de gauche. Trois mois après, la rupture promise à l'époque semble loin. Et lorsqu'on se penche sur la composition de son cabinet, la continuité saute aux yeux entre anciens collaborateurs de Jean-Michel Blanquer et proches du chef de l'État. Un entourage qui semble le cadrer et le tenir à bonne distance de la presse lors de ses déplacements. Pour le moment, Pape Ndiaye a surtout opté pour la discrétion. Et lors de ses rares prises de parole, il s'est souvent montré très consensuel.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
8h07 sur Europe 1. Presque une semaine au ralenti. Depuis sa cyberattaque le week-end dernier, le centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonne est complètement désorganisé.
Opération reportée, malades transférés, visites perturbées. Sans les dossiers informatiques des patients, rien ne va plus. Les hackers réclament 10 millions de dollars. L'hôpital ne paiera pas, comme lui ont recommandé les autorités. Ce que vous nous révélez ce matin, William Molinier, c'est que la crise est telle que le GIGN a été sollicité.
On est davantage habitué à le voir intervenir sur des prises d'otages ou des attaques terroristes. Selon nos informations, le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, a été engagé dans l'enquête sur la cyberattaque de l'hôpital sud-francilien pour prêter main forte sur deux volets, celui de la négociation et de la gestion de crise. Ce n'est pas la première fois que ces négociateurs sont appelés en renfort dans le cadre de piratage informatique, surtout lorsqu'il y a des demandes de rançon. Ils ont développé cette capacité depuis quelques années maintenant en tant que spécialistes des enlèvements et des séquestrations. Leur objectif est de gagner du temps pour permettre la restauration et la protection des données des patients que les hackers menacent de divulguer. La demande de rançon est de 10 millions de dollars, mais la direction de l'hôpital a d'ores et déjà indiqué qu'elle ne payera pas, comme le recommandent les autorités. Selon une source proche du dossier, le type de virus a été clairement identifié. Reste à savoir qui sont les hackers qui se cachent derrière. Depuis deux ans, une vingtaine de gendarmes de la cellule nationale du GIGN a été spécifiquement formée pour évoluer dans le cyberespace. Il est prévu qu'à terme, 350 autres négociateurs en région le soient aussi.
William Molinier du service police-justice d'Europe.
Plus d'un million de décès du Covid dans le monde depuis le début de l'année. Et on apprend ce matin que le virus a un complice qui accentue sa virulence, la pollution.
Oui, c'est ce que révèle une étude du CNRS. Les chercheurs se sont aperçus que dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest, plus la pollution est élevée, plus le nombre de décès liés au Covid est important. Explication de Louise Douillet.
Paris, printemps 2020, les courbes de mortalité du Covid-19 et celles de la pollution de l'air se superposent. Pour Jean-Baptiste Bernard, directeur de recherche au CNRS, à l'origine de cette étude, la corrélation est évidente.
Plus nous avons des pics de pollution aux particules fines, plus on va avoir dans la semaine qui suit une augmentation très forte de la mortalité liée à la Covid. Et à contrario, lorsque le pic de pollution va s'arrêter, une à deux semaines après, on voit une descente importante de la mortalité. Le phénomène d'évolution de la Covid par rapport à la pollution semble universel.
À Paris, comme dans 31 autres villes de l'ouest de l'Europe, le phénomène se confirme et s'explique même scientifiquement. Isabella Annecy-Maessano est directrice de recherche à l'INSERM.
La pollution a permis au Covid de pénétrer dans les poumons des gens et c'est là que le Covid fait des dégâts. Il y a une pénétration accrue du virus parce que les muqueuses sont fragilisées par la pollution.
Plus 10% de mortalité par microgramme par mètre cube de particules fines supplémentaires et des chercheurs qui appellent les pouvoirs publics à agir au plus vite afin de réduire les niveaux de pollution des grandes villes.
Louise Douillet.
Le sport s'est confirmé, pas de Djoko à l'US Open cette année.
Novak Djokovic ne pourra pas mettre un pied aux États-Unis sans vaccin contre le Covid-19. Or, le champion serbe n'est toujours pas vacciné. vaccinés. Il a donc déclaré forfait, Nicolas Pineau.
Ah oui, le Serbe a annoncé son forfait via Twitter, juste avant le tirage au sort de l'US Open. La raison est simple, Novak Djokovic refuse de se faire vacciner contre le coronavirus, un choix assumé et qu'il a déjà privé de plusieurs tournois cette saison. La Fédération américaine de tennis affirme qu'elle est obligée de suivre les recommandations des autorités sanitaires, c'est-à-dire qu'un étranger non vacciné ne peut se rendre aux États-Unis. En revanche, et c'est ce qui est invraisemblable dans cette histoire, un joueur américain non vacciné, lui, peut participer au tournoi. Même chose pour les entraîneurs et les spectateurs. Les masques ne seront d'ailleurs pas obligatoires à Flushing Meadows. À 35 ans, l'avenir de Novak Djokovic, vainqueur de 21 tournois du Grand Chelem, demeure incertain. L'ancien numéro 1 mondial occupe désormais la 6e place au classement ATP. Il devrait encore reculer suite à son absence à l'US Open.
Nicolas Pineau, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Dans le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, vous revenez tout à l'heure à 9h.